Chapitre 17. Le duc, à la tête de son armée, entoure Genève. Mars et avril 1519. Incartade de 15 gentilshommes du coup. Réponse ferme du conseil. Alarmes à Genève. Le roi d'armes ducal devant le conseil. Son discours, réponse du premier syndic. Le héros déclare la guerre. Genève prépare la résistance. Les Mamelouks se rendent vers le duc. Leur conférence dans le verger du Faucon. Le duc se transporte à Gaillard. Marty arrive de Fribourg. Entrevue du duc et de Marty. Essai de surprise à minuit. Elle échoue. Ruse et promesse du duc. Fuite de Bonivard. Le duc était à bout de ses intrigues et l'affaire du chapitre avait porté à son comble son irritation. On avait assez de comédie, il fallait en venir à la tragédie. Tout se prépara pour écraser Genève et la liberté. En effet, le duc leva une armée, ouverture de guillemets, de Salémon, c'est-à-dire en Savoie, le plus secrètement qu'il put, fermeture de guillemets, puis... craignant que les fribourgeois, s'ils en étaient avertis, ne vinssent au secours de la ville, et voulant, ouverture de guillemets, prendre le poisson sans se mouiller la patte, fermeture de guillemets, il envoya M. de Lambert en Suisse pour amuser les cantons avec de belles paroles. Tandis que l'ambassadeur occupait ainsi l'attention de messieurs de Fribourg, les seigneurs savoyards faisant hâte, appelaient partout aux armes leurs vassaux. Le duc plaça son armée sous le commandement du sire de Montrottier, cousin de Bonivard, excellent capitaine. Celui-ci fit marcher ses troupes pendant la nuit et les assembla en silence autour de Genève, en sorte que le duc se trouva à Saint-Julien, à une lieue de la ville, avec 7000 soldats, avant que personne sût rien de son entreprise. Jamais les Savoyards n'avaient si bien mené leur affaire. Bientôt les gens des environs, accourant en foule sous les drapeaux, portèrent à 10 000 hommes l'armée ducale. Alors le duc ne cacha plus son dessein. Il tenait cour à Saint-Julien, et l'on voyait se presser autour de ce prince un nombre toujours croissant de seigneurs, richement vêtus, magnifiquement armés, et surtout beaucoup de jeunes gentilshommes, pleins d'orgueil, qui brûlait de faire une campagne contre de bruyants boutiquiers. Jamais cette petite ville de Saint-Julien n'avait vu tant de fastes, entendu tant de brocards. Ouverture de guillemets, c'est la cravache à la main qu'il faut les soumettre. Fermeture de guillemets, s'écriaient quelques-uns. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le 15 mars 1519, 15 de ses chevaliers partent de Saint-Julien pour exécuter ce plan de campagne. Ils arrivent à Genève, montent droit à l'hôtel de ville, laissent dans la rue leurs chevaux à leurs valets et la tête haute, ils entrent dans la salle du conseil éperonnés, crottés et houssés. Là, sans attendre qu'on leur présente des fauteuils, ils s'asseyent arrogamment et, se passant de tout prologue, ouverture de guillemets, « Monseigneur voulant venir en cette ville, dirent-ils, ordonne qu'on pose les armes et qu'on lui ouvre les portes. » Fermeture de guillemets. Les sénateurs genevois, assis dans leurs chaises curales, regardaient avec étonnement cette singulière ambassade. Ils se comptèrent pourtant, et, à la fois fermes et modérés, et ils répondirent que le duc serait le bienvenu dans Genève, pourvu qu'il vînt avec son simple train, et seulement pour y faire bonne chère, comme il n'avait fait souvent. Ouverture de guillemets. Dans ce cas, ajoutèrent les syndics, les armes que nous portons ne seront que pour le garder. Fermeture de guillemets. Ceci semblait indiquer que l'on pourrait en faire un autre usage. Aussi les gentilshommes répliquèrent avec hauteur, ouverture de guillemets, « Monseigneur entrera dans votre ville avec qui bon lui semblera, et il y fera tout ce qui lui plaira. » Alors, répondirent tout court les syndics, « Nous ne le laisserons pas entrer. » Fermeture de guillemets. À ces mots, les 15 chevaliers se levèrent comme un seul homme. Ouverture de guillemets. « Nous entrerons, malgré vos dents, dirent-ils, et nous ferons chez vous tout ce que nous voudrons. » Fermeture de guillemets. Puis frappant les dalles de leurs bottes éperonnées, ils sortirent, remontèrent à cheval et se lancèrent au galop sur la route de Saint-Julien. On les regardait passer, galoper, et la crainte commençait à saisir une partie de la population. En effet, le moment était critique. Genève fut dès lors pendant plus d'un siècle sous les armes, et à plusieurs reprises, en particulier lors de la fameuse escalade de 1602, il repoussa les attaques de la Savoie. Mais la réforme lui donna plus tard des forces qu'il n'avait pas à cette heure. La diète suisse lui ordonnait de recevoir le duc. Il n'y avait guère que 10 à 12 000 âmes dans la ville, en comptant les femmes et les enfants, et le prince de Piémont, le duc de Savoie, était à ses portes avec 10 000 soldats. On crut que Charles allait entrer, tout égorgé, tout brûlé, et plusieurs familles effrayées sortirent avec leurs plus précieux effets. Fuite inutile, les hommes d'armes de Savoie occupaient les chemins, en sorte que des fuyards les rencontraient partout. Quelques-uns rentrèrent dans la ville. Ouverture de guillemets. « Tout le pays de Savoie est en armes, dirent-ils, et plusieurs des nôtres ont été pris et torturés. » Fermeture de guillemets. Il était alors 3 heures après-midi. Les patriotes se réunirent. Mertelier, Hugues, Bonivard, beaucoup d'autres encore, accoururent pour s'entendre. Ils décidèrent qu'il fallait envoyer une ambassade à Fribourg pour l'avertir de cette affaire et demander une garnison, puisque le duc n'oserait tirer un coup d'arquebuse contre les murailles que messieurs d'Aynic garderaient. Mais qui envoyer? Plusieurs raisons. La question des frais, par exemple, retenait les citoyens, car on était pauvres. Bonivard s'indigna. Ouverture de guillemets. « Vous avez irrité le loup, dit-il. Le voilà à vos portes, prêt à vous dévorer. Et vous préférez lui laisser manger votre lait, votre beurre, votre fromage, que dis-je, vous mangez vous-même, que de donner une partie de votre pitance au matin qui peut vous défendre. » Fermeture de guillemets. Il y avait dans l'assemblée un homme qui ne calcula jamais, lorsqu'il était question de sauver sa batterie. Besançon, Hugues. Il était malade, il était déjà endetté pour la cause de Genève. N'importe. « J'irai, dit-il, et il partit. » Pendant ce temps, les 15 gentilshommes de retour à Saint-Julien y racontaient leur visite au conseil. Charles et ses conseillers ne trouvèrent pas cette démarche très diplomatique et résolurent d'en faire une plus officielle, mais plus insultante encore. Le lendemain, vendredi 1er avril, le roi d'armes provenait de Chablais, il avait ce nom de la province dont il était originaire, arriva de leur part à Genève et fut introduit au conseil avec les formes ordinaires. Une cuirasse se couvrait jusqu'à la ceinture, il avait sur son bras gauche sa casaque ou cotte d'armes et tenait en sa main droite une baguette, une gaule, dit un manuscrit. Il entra la tête haute sans se découvrir, ni faire révérence au conseil. Ouverture de guillemets. « Asseyez-vous à côté de moi, lui dit honnêtement le premier syndic, et exposez-nous votre charge. » Fermeture de guillemets. Chablais resta debout, la lèvre orgueilleuse et sans mot dire, quoique cette invitation lui fût trois fois renouvelée. Cette muette ambassade étonnait fort le sénat genevois. Enfin, le roi d'armes sortit de son immobilité et alla de lui-même s'asseoir, non pas à côté, mais au-dessus des syndics qui restèrent impassibles. Puis il dit, ouverture de guillemets, « Seigneurs syndics et conseils, ne vous émerveillez pas si je ne me suis pas assis quand vous me l'avez commandé, et si je m'assieds maintenant sans que vous m'en priez, je vous en dirai la cause. Je suis ici de la part de mon très redouté prince et seigneur, le duc de Savoie, mon maître et le vôtre. Il ne vous appartient pas de lui dire de s'asseoir, c'est à lui de le faire quand et où bon lui semblera. Non près de vous, mais au-dessus de vous, comme votre souverain prince. Or, en représentant sa personne, je l'ai fait moi-même. Maintenant, de mon siège, je vous expose ma charge, et la voici. Monseigneur et le vôtre vous mande et vous commande de lui apprêter son logis en votre maison de ville, avec telle somptuosité et magnificence qu'il appartient à un tel prince. Pareillement, il ordonne que vous lui teniez prêt des vivres pour lui et pour sa compagnie, qui sera de 10 000 hommes de pied, sans la cavalerie, car son intention est de loger ici en cet équipage, pour rendre la justice dans Genève. Fermeture de guillemets. Le roi d'armes fut invité à se retirer, le conseil voulant délibérer sur la réponse à faire. Les débats ne furent pas longs. Tous demandèrent qu'on maintînt avec fermeté les libertés de Genève. Le héros fut rappelé et le premier syndic lui dit « Seigneur Chablais, nous sommes également surpris de ce que vous faites et de ce que vous dites. De ce que vous faites, quand nous vous proposons un siège, vous le refusez. Quand vous l'avez refusé, vous le prenez. De ce que vous dites. Vous dites que M. de Savoie est votre prince et le nôtre. Chose inouïe jusqu'à cette heure. Qu'il soit votre prince, nous le croyons, mais le nôtre, non. Nous sommes ses très humbles serviteurs, mais nous ne sommes ni ses sujets, ni ses vassaux. Il n'appartient donc ni à vous, ni à lui, de vous asseoir à la place où vous êtes. Quant à ce que vous dites de notre hôtel de ville, nous ne savons ce que cela signifie. Le duc peut choisir tel logis qui lui plaira, excepté notre maison de ville, dont nous ne pouvons nous passer. On le traitera comme autrefois, mieux si l'on peut. Il veut faire justice, dit-il. C'est à l'évêque, c'est à ce conseil à la rendre, selon les franchises que lui-même a jurées. Si quelqu'un parmi nous l'a offensé, qu'il nous le fasse savoir. Enfin, quant à la grande escorte, dont il veut se faire accompagner, singulière compagnie pour faire justice, qu'il lui plaise de venir avec son ordinaire, voire 500 hommes, mais 10 000 fantassins et de plus la cavalerie, nous n'avons pas mis cuir pour tant de gens. Fermeture de guillemets. Chablais écoutait froidement, dédaigneusement. Ouverture de guillemets. « Voulez-vous ou non obéir au commandement de Monseigneur ?» dit-il. Le premier syndic répondit nettement « Non ». Alors le roi d'armes se leva, revêtit sa casaque et, haussant la voix, dit « Donc, de sa part, je vous prononce rebelle à votre prince et je vous déclare la guerre à feu et à sang. » Fermeture de guillemets. Puis, jetant sa baguette au milieu de la salle, ouverture de guillemets, Je vous défie de la part de Monseigneur. En signe de quoi? Je vous jette cette goule. Qui la voudra lever? Qu'il la lève. Fermeture de guillemets. Et il sortit. La nouvelle de cet étrange défi fut aussitôt portée au peuple, qui en fut consterné. Les Huguenots, voyant qu'il fallait mourir ou servir, disent les annales, préféraient le premier et s'y préparaient. Mais résolus à vendre leur vie et non à les donner. Se sentant les plus forts en la ville, ils assemblèrent tout le peuple. Que chacun prenne les armes, dirent-ils, voire on y contraignit les Mamelouks. Les portes furent fermées, les chaînes furent tendues, l'artillerie fut équipée, le guet fut posé. On fit tous les apprêts de guerre selon l'art et l'expérience qu'on avait du métier d'Icelle. Fermeture de guillemets. Alors le duc, sentant que le droit lui manquait, résolut de tirer l'épée. Conseillé par Montrottier, capitaine hardi, il eut un accès de courage. Il fit fermer tous les passages, il lança ses troupes dans toutes les directions. C'était le 2 avril, samedi, jour de marché à Genève. Le marché se tint, sans mot dire. On laissait entrer dans la ville et sortir tous ceux qui voulaient. Mais vers midi, le bruit de la manœuvre ducale étant parvenu dans la ville, les citoyens prirent les armes. Quelques paysans revenant du marché racontèrent aux Savoyards, en les exagérant peut-être, les préparatifs de guerre faits par les Genevois. Aussitôt, succéda chez le duc, à un accès de courage, un accès de crainte. Bonivard s'y attendait. En voyant ce prince à la tête d'une armée, il avait levé les épaules. Ouverture de guillemets. Le duc, disait-il, en sait de la guerre autant qu'un moine nourri dans un cloître depuis l'âge de 7 ans. Fermeture de guillemets. Cet appareil de 10 000 hommes, réunis à une lieue de Genève, ses troupes envoyées dans toutes les directions, aboutirent à une reculade honteuse. Monsieur de Lucinge, se présentant au conseil, dit, ouverture de guillemets, Son Altesse m'a ordonné de vous informer, très honoré seigneur, qu'il veut venir souper amicalement chez vous. S'il ne peut loger dans la maison de ville, veuillez lui préparer ailleurs des logis pour lui, pour son grand train et 200 ou 300 hommes de pied seulement. Il ne veut faire violence à personne. Fermeture de guillemets. Les Mamelouks demandèrent que l'on ouvrit aussitôt les portes au duc. Mais les syndics répondirent que l'on consultera le conseil général le lendemain. Les conseillers ducaux, qui trouvaient que le duc, en venant à Genève, lui faisait certes un grand honneur, se regardaient étonnés de la réponse. Leur plus grand bonheur était de s'approcher d'un prince, de faire la cour à son Altesse. Et les inflexibles Huguenots semblaient lui tourner le dos. Ouverture de guillemets. « Eh bien, dirent-ils, si l'on ne veut pas que le duc vienne à nous, nous irons à lui. » Fermeture de guillemets. Aussitôt Montyon et plusieurs autres de son parti sortirent du conseil. La cour de l'hôtel de ville était pleine de bourgeois qui attendaient le résultat de la séance. Ils virent passer les Mamelouks avec étonnement. Les assistants se dirent les uns aux autres à l'oreille. Ils vont rejoindre les Savoyards. Bientôt, on le cria tout haut. Plusieurs Huguenots saisirent des lances, qui se trouvaient contre les murs, et coururent après les ducaux pour les saisir. Déjà, ils les avaient presque atteints, quand quelques citoyens, envoyés par les syndics, les supplièrent, au nom du salut de la ville, d'éviter une rixe entre les citoyens. Ces patriotes irrités retournèrent à l'hôtel de ville. Tous ceux qui s'y trouvaient étaient dans la tristesse en voyant qu'il y avait parmi eux des hommes capables d'abandonner Genève pour le duc de Savoie. Les déloyaux, comme on les appelait, se précipitèrent sur la route de Saint-Julien. Il y avait, outre Montyon, Cartelier, Déléamont, Nergaz, Ray, les deux de Fernex et d'autres, en tout 30 à 40. Il faut que notre entrevue avec le duc soit secrète, dit le rusé Cartelier, qui sentait ce que leur démarche avait du coupable. Le duc leur fit dire de se trouver à une certaine heure de la nuit sous un certain arbre dans le verger du Faucon. Ils y arrivèrent les uns après les autres, et bientôt ils furent tous réunis autour de l'arbre, mais sans pouvoir se reconnaître autrement que par la voix. L'intrigant Cartelier prit la parole. C'étaient des vues politiques qui faisaient agir Monthyon, de Versonnex et d'autres. Mais chez lui, c'était la haine qu'il portait aux Huguenots et le désir de se venger. Il assura le duc que la majorité du peuple était prête à le reconnaître comme souverain. Ouverture de guillemets. Mais, continua-t-il, les mauvais ont fermé les portes, tendu les chaînes, placé des gardes. Entrez à Genève, monseigneur, et l'épée à la main. Fermeture de guillemets. Puis, passant à de coupables machinations, on convint à voix basse de ce que feraient les Mamelouks pour faciliter l'entrée des Savoyards dans la ville. Ouverture de guillemets. Les traîtres, dit Bonnivard, menèrent des pratiques avec le duc. Fermeture de guillemets. Le dimanche, de grand matin, le duc, prenant une meilleure position, se rendit dans son château fort de Gaillard, sur l'Arve, à 3/4 de lieue de Genève. Le bruit de ses desseins s'était répandu dans toute la vallée du Léman. Aussi les gentilshommes et les bandes du pays de Vaud, de Chablais et du Faucigny arrivaient-ils de tous côtés. Il n'y eut plus. Les chanoines et les prêtres de la ville, oubliant bien vite la leçon qu'ils avaient reçue, coururent à Gaillard. Bonnivard, resté presque seul clair dans Genève, voyait se confirmer toutes ses théories. Il avait pour maxime que, ouverture de guillemets, gens nourris au cours des princes ont toujours souvenance de leur première nourriture, et maintenant, disait-il, de tous les chanoines et gens de robe longue, il ne reste à Genève que de la Biolée, Navis et moi. Tous s'en vont trouver le duc à Gaillard, voire M. de Bonmont, que l'on estimait le principal amateur de la chose publique. Fermeture de guillemets. Le château fut bientôt, plus encore que Saint-Julien, rempli d'une foule nombreuse et imposante. L'orage approchait. Le danger croissait d'heure en heure. La petite troupe de patriotes était encore pleine de courage, mais hélas, c'était une fourmilière qu'un rocher des Alpes allait écraser. On avait suivi d'un œil inquiet les prêtres, mais sans vouloir les arrêter. Ces oiseaux, avait-on dit, ont le flairement si naïf qu'ils courent où il y a quelque pâture. Si Fribourg envoyait quelques vaillants guerriers pour prêter main forte à ceux de Genève, cette armée savoyarde serait bientôt dissipée. Mais Fribourg restait muet. L'inquiétude gagnait de proche en proche. On rencontrait çà et là dans les rues des regards assombris. Tout à coup, on aperçoit deux hommes sur la route de Suisse. Oh, bonheur, ils portent les couleurs de Fribourg. En effet, à 11 heures du matin, le dimanche 3 avril 1519, l'ami de Berthelier, le conseiller Marty, accompagné d'un héros, entra dans Genève. « Et vos hommes d'armes, lui dit-on. On apprit que, pour le moment du moins, il n'y en avait pas. Le conseil général s'était alors assemblé pour répondre à M. de Ducinge. Marty s'y rendit aussitôt, mais il y fut moins bien reçu qu'il ne l'avait imaginé. « Ce sont des ambassadeurs en pourpoint qu'il nous faut, lui dire les Huguenots, et non des ambassadeurs en robe, pas des diplomates, mais des soldats. » Marty partit pour Gaillard, mais les Genevois le voyaient aller sans espérance. Il n'y avait selon eux que des arquebuses pour répondre aux Savoyards. Le Fribourgeois, en s'approchant de Gaillard, fut frappé du nombre considérable de troupes qui entouraient le château. Le duc donnait en ce moment audience au chanoine, qui lui faisait toutes les révérences et les compliments appris jadis à la cour. Le duc espérait pouvoir mener avec eux quelques pratiques. Aussi fut-il fort ennuyé de voir arriver ce médiateur, et se tournant impatienté vers ses capitaines, il lança à demi-voix contre lui quelques mots de mépris. Pourtant, après quelques minutes et quand il l'eut envisagé de plus près, Charles prit confiance, ne doutant pas que sa haute habileté politique ne vint à bout de ce pâtre des Alpes. Ouverture de guillemets. « Il me semble, dit-il, un bon homo, aisé à tromper. » Puis, voulant commencer ses menées, « Asseyez-vous, monsieur l'ambassadeur, lui dit-il, et là-dessus, il lui fit grande chère et lui donna toutes sortes de bonnes paroles. Mais le bon homo, H-O-2-M-E-A-U, qui était au fond un fin et hardi fribourgeois, lui répondit en son simple langage roman. « Monseigneur, vous avez déjà dit à messieurs tant de mensonges que je ne sais s'ils voudront plus vous croire. » Le duc, offensé de ces rudes paroles, parla plus vertement. « J'entrerai dans Genève comme ami, dit-il, ou, s'ils ne le veulent pas, comme ennemi. Mon artillerie est toute prête pour savonner la ville en cas de refus. » Marty, épouvanté, demanda trêve, au moins pour la nuit, afin qu'il pût parler à ceux de Genève et pacifier l'affaire. Le duc ne lui accorda. Tous les citoyens étaient sur pied. Les gardes étaient aux portes, les canons sur les murailles, le guet jour et nuit dans les rues. À 10 heures du soir, Marty arriva et se rendit au conseil qui était en permanence. Ouverture de guillemets. « Messieurs, dit-il au syndic, je crois que vous devez vous fier au duc et le laisser entrer dans la ville. »« Et l'aide de Fribourg, lui dit-on. » Sur quoi Marty répliqua, « Messieurs, ils sont bien loin. » Il semblait avoir perdu toute espérance. Toutefois, il ajouta, « Il n'y a trêve jusqu'à demain matin. » On convint de réunir le grand conseil le lendemain, avant jour, afin de délibérer sur le parti à prendre en cette terrible crise, et comme les citoyens étaient sur pied depuis 3 nuits, on leur permit, vu la trêve, d'aller prendre quelque repos. C'était alors 11 heures du soir. Minuit sonna. On n'entendait plus d'autre bruit que le pas des sentinelles. Une nuit profonde couvrait la ville de ses voiles, et tous dormaient. Tout à coup, la lueur d'un flambeau parut sur le haut de l'une des 3 tours de Saint-Pierre. C'était le signal dont Cartelier était convenu avec le duc dans la conférence nocturne qu'ils avaient eue sous l'arbre du Faucon. Cette lumière annonçait que les troupes de Savoie pourraient entrer sans résistance. Un bruit de chevaux se fit entendre presque aussitôt hors de la ville, du côté de Saint-Antoine, et l'on frappa un grand coup contre la porte. C'était Philippe, comte de Genevois, frère du duc, à la tête de ses cavaliers. Ayant frappé, il attendit que les mamelouks lui ouvrissent selon leurs promesses. Mais la sentinelle de la porte Saint-Antoine, qui avait vu le flambeau et entendu le coup, soupçonnant une trahison, tira au hasard son coup d'arquebuse et donna ainsi l'alarme. Aussitôt, on sonne le tocsin. Les citoyens se réveillent, s'arment et se précipitent du côté de l'attaque. Ouverture de guillemets. Tout le monde fut moult effrayé et indigné, et gros tumulte fut fait dans la cité. Fermeture de guillemets. Chacun courait, criait, commandait. Le comte, qui prêtait l'oreille, commençait à craindre que son affaire ne fût manquée. Au milieu du tumulte, un coup de tonnerre se fit entendre et jeta des 2 côtés la terreur. Le comte et les siens n'hésitèrent plus. Ils se retirèrent. Les Genevois firent de même, et quelques patriotes irrités qui, en retournant chez eux, passaient devant la maison de Marty, y entrèrent et lui dirent en gros courroux, « Sont-ce là les belles trêves que vous nous apportez ?» Le grand conseil s'assembla avant jour. C'était le lundi 4 avril. Les mamelouks excusaient l'affaire de la nuit. Ce n'était sans doute qu'une patrouille de cavalerie qui s'était trop avancée. Mais Marty ne cacha pas le danger. « Le duc est à vos portes avec toute son armée, dit-il. Si vous faites droit à ses demandes, nous a-t-il dit, vous serez content de lui. Sinon, il entrera de force cet après-midi même. Faites de nécessité vertu, tout au moins. Envoyez-lui une députation. » Fermeture de guillemets. Les syndics partirent en effet pour Gaillard. Le duc les reçut de l'air le plus débonnaire, le plus affectueux. Ouverture de guillemets. « Je n'entrerai dans Genève qu'avec mon simple train, leur dit-il. Je ne prendrai que 500 hommes de pied pour ma garde. Je renverrai tout le reste de mon armée. Je ne ferai aucun mal, ni à la communauté, ni à aucun particulier, et mon séjour ne sera pas long. » Fermeture de guillemets. Son Altesse fit tant de promesses et de serments, dit Bonnivard, que l'entrée lui fut enfin accordée. Quand cette résolution du Conseil fut connue, les patriotes indignés jetèrent leurs arquebuses. Tout le monde posa les armes. Et un grand abattement saisit les esprits. Il y avait des cris de dépit, il y avait des cris de douleur. Mais il restait pourtant çà et là quelque espérance que Dieu finalement délivrerait la cité. Le mardi 5 avril, au matin, le duc ordonna à toute son armée de se mettre en marche. En l'apprenant, les Genevois coururent lui faire des remontrances. Ouverture de guillemets. « Mes gens ne feront que traverser Genève, » répondit-il. « Ne craignez rien, ouvrez seulement toutes les portes. » Sans doute, ajoutait quelque mamelouk. « Soyez tranquilles, ils entreront par une porte et sortiront par l'autre. » Fermeture de guillemets. Le triomphe de la violence et de la ruse allait s'accomplir. Un peuple trop simple, trop confiant, allait être écrasé sous les pas d'un prince puissant et de ses nombreux satellites. Toutes les portes furent donc ouvertes, et celles qu'on avait murées furent même démolies. Les Huguenots, qui avaient voté inflexiblement contre l'admission de Charles dans la ville, regardaient avec indignation ce triste spectacle. Mais ils étaient décidés à assister jusqu'à la fin à l'humiliation de Genève. Bonnivard fut le plus prévoyant. Il prit peur dans son prieuré. Il n'avait plus de couleuvrine et il n'eût pu résister à l'armée savoyarde avec ses 10 moines. Ouverture de guillemets. Consentir à l'entrée du duc, quelle folie, disait-il. Certes, ceux qui connaissent sa loyauté, desquels je suis un, savent ce qui va arriver. Fermeture de guillemets. Ce qui allait arriver, selon Bonnivard, c'est qu'il serait la première victime immolée par le duc, et qu'il y en aurait bien d'autres. Ouverture de guillemets. Voulant être, nous dit-il, plus sage et plus fin que tous, il se sauva en hâte dans le pays de Vaud. Berthelier, plus exposé que son ami et qui voyait clairement venir sa fin, ne s'en effraya pas. Il croyait que les défenseurs de la loi et de la liberté servent leur cause par leur mort, aussi bien que par leur vie, et résolut d'attendre les coups de Charles et du bâtard.